Backstage, le podcast, ce sont Margot Delpierre, qui est journaliste, et Thomas Langlin, qui est technicien supérieur du son. Ils réalisent tous deux en binôme ces chouettes podcasts qui nous font découvrir l'univers des artisans, des techniciens, des artistes. En quelques mots, les coulisses de la création par la voix de ceux qui font la culture. Et vous pouvez retrouver tous ces podcasts sur le site backstagelepodcast.com. Et aujourd'hui, nous en sommes au second épisode du podcast dédié à Pascal Bordet, qui est une costumière de grand talent qui habille le cinéma français et qui a été maintes fois primée. Je rappellerai qu'elle est également l'auteur d'un livre « Splendeur et misère d'une costumière ». C'est un album composé d'aquarelles, avec également des photographies de Laurencine Lotte et un livre préfacé par François Morel aux éditions Hervé Chopin, et c'est sorti en 2018. Suite numéro 2 de ce podcast consacré à Pascal Bordet, interview de Margot Delpierre, donc, est montée et mixée par Thomas Langlin.
Pour expliquer un peu aux auditeurs, les habilleuses, elles font quoi ?
Les habilleuses, elles sont là avant les comédiens pour la mise en loge des vêtements qui sont tous les soirs au même endroit. On a des repères parce que on se change dans le noir, en coulisses. Il faut apprendre à habiller les acteurs, à les déshabiller. Et il faut apprendre aussi à entretenir la soie, le taffetas, une ombrelle qui est cassée, une chaussure qui fait mal. Il faut gérer tous les soirs des comédiens qui s'habillent, qui se déshabillent, qui jouent. Quand ça craque... Parce que ça craque aussi quand c'est usé, et comment on fait pour que tous les soirs le spectateur ait l'impression de voir des costumes neufs, même s'ils jouent depuis 350 représentations.
Parce qu'on se rend pas compte à quel point ça peut s'user.
Ça s'use beaucoup plus vite que dans la vie. D'abord parce que c'est sous des projecteurs et il fait très très chaud, donc les matières souffrent, et puis c'est porté, c'est corseté, c'est juponné, il faut bouger avec, il faut que l'acteur soit libre dans ses gestes. Je dis ça pour le 1830, le 19e siècle, le 18e siècle, même le 20e siècle. C'est pas du jean, c'est pas de la toile, c'est des matériaux nobles, c'est fragile, et il faut encaisser les coups. Parce que c'est tous les soirs, la répétition fait que quelquefois ça craque toujours au même endroit.
Ça vous rend pas folle ?
Mais je suis folle. Donc ça me va.
Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez un comédien, une comédienne enfiler, essayer pour la première fois son costume de scène ?
Je découvre avec lui ce que moi j'ai préparé et qui pour lui est une surprise. Mais les acteurs, avant d'essayer leur costume, moi je peins, donc je fais des maquettes, je dessine, je trouve les couleurs, je prépare l'échantillonnage. Donc j'ai beaucoup de discussions avec eux avant sur là où ils veulent aller, là où le texte veut nous emmener. Si bien que quand ils arrivent au premier essayage, c'est rentré dans la matière, mais ils peuvent être surpris parce que c'est sur leur peau, mais dans leur tête, j'ai déjà préparé un travail. Il y a un travail préparatoire qui peut prendre 6 mois, quelquefois même 1 an, avant d'arriver au premier essayage.
Alors justement, sur le travail préparatoire, même avant ça, on vous contacte, par exemple, une production vous propose de confectionner les costumes, vous dites oui. Une fois que vous avez dit oui, quelle est la première étape de ce travail préparatoire ?
Mais même avant de dire oui, je demande le texte. Il n'y a rien sans le texte. Au théâtre, le début, c'est les mots. Donc il faut lire, lire beaucoup, lire et relire, et voir où on va aller, qu'est-ce qu'on va en faire, comment on va le faire. Il faut bien connaître les époques. Il faut bien s'entendre avec le metteur en scène qui a quelquefois une vision du 19e siècle qui peut être plus moderne ou plus ancienne. Et il faut que je me mette d'accord avec tout le monde, moi. Il faut que je me mette d'accord avec le décorateur qui fait un écrin. Attention aux couleurs. Avec le mobilier. Sur quoi on s'assoit, comment... Il faut que je me mette d'accord avec l'éclairagiste. Il faut que je me mette d'accord avec le producteur, avec un budget. Je suis aussi comptable. Il faut que je me mette d'accord avec les comédiens, ce qu'ils aiment pas. Je mettrai pas de bleu. Aïe, non, ça me sert. Je veux pas de corset. Il faut que je me mette d'accord avec tout le monde. C'est un métier de contrainte. Mais moi, Le but, c'est de trouver ma liberté dans les contraintes. Et c'est ça qui est magnifique. C'est d'arriver à la première en ayant tout réussi, en ayant rempli toutes les cases.
C'est un métier avec beaucoup de diplomatie.
Ouh là là, c'est plus que de la diplomatie, hein. C'est l'aide à la personne, je dirais. Bien sûr qu'il faut entendre. Il faut entendre le corps des autres, l'esprit des autres. Je n'aime pas le bleu. Je ne porterai pas de corset. Je ne veux pas de robe longue. Je n'aime pas les capes. Alors, il faut passer toutes ces étapes. C'est, je dirais, au-delà de la diplomatie, c'est de la psychanalyse. C'est de la psychologie, mais de la psychanalyse dans le sens où l'acteur et moi et le metteur en scène, on étudie des personnages. Qui ils sont, où ils vont, ce qu'ils veulent. Il faut les définir. Et donc, comment ils sont habillés, puisque c'est le costume qu'on voit en même temps que l'acteur quand il rentre en scène. Mais avant, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches. Donc, je dirais que oui, diplomatie, évidemment, bien sûr, puisque eux sont obligés de porter mes créations, mais moi, je m'adapte. Et chaque costume que j'ai fait est unique. Je n'ai jamais habillé deux fois de suite le même personnage de la même façon.
Et ils deviennent quoi après ces costumes ?
Ils appartiennent au théâtre, puisque c'est le théâtre qui les paye. Et donc, soit ils restent dans des placards, soit ils vont dans les musées, soit ils sont revendus, soit on les revend pour faire des stocks pour les loueurs ou à des compagnies qui ont besoin de costumes. Ils circulent.
Donc, vous n'en êtes pas propriétaire, même si ce sont vos œuvres ?
Ouais, non. Et je les mettrai où, tous ces costumes, depuis des années ? Il faut de la place. Et puis, c'est très bien qu'ils aient une seconde vie.
Vous parliez de budget. Est-ce qu'il y a de la frustration, des fois, de ne pas pouvoir aller au bout de vos envies ?
Il y a surtout de la frustration, puisque tout est trop cher. Donc, c'est comment je vais faire pour avoir le meilleur et alors que je n'ai pas de budget. Donc, il faut être très malin pour mettre l'argent là où ça se voit. Et faire des économies sur des choses qui ne se voient pas, mais qui sont pourtant essentielles, comme les dessous. Donc, faut être malin. Il faut savoir répartir le budget, qui est de plus en plus pauvre, parce qu'il y a de moins en moins d'argent pour les créations. Et le costume passe après le cachet des acteurs, il passe après le décor, il passe après un tas de choses. C'est le parent pauvre, un petit peu, on se débrouille, il faut se débrouiller.
Mettre l'accent sur les choses qui se voient, par exemple quoi ?
Les belles matières, les couleurs, les chapeaux, les détails, les gants même. Mais après, bon, faut trouver les fournisseurs, faut chiner, faut racheter de l'occasion, faut être habile, il faut être chineur, beaucoup, faut chercher.
Donc, avant même d'acheter vos matières, vos tissus, vous faites quoi ? Un devis ?
Un devis. Et quand je dis un devis, c'est pas un devis, c'est des devis. Combien ça coûte la paire de chaussures ? Combien ça coûte Et au théâtre, on achète tout en double, parce qu'on lave tous les jours. Donc, en fait, c'est pas le prix d'une chose, c'est le prix de deux choses. À chaque fois, il faut deux paires de bas, deux chemises, pour relayer tous les soirs, pendant qu'il y en a une qui sèche, il y en a une qui se lave. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. On a l'impression que ça coûte cher pour peu de choses, parce que c'est en double. Ah, alors, ça coûte cher, et ça se voit pas.
Et après, il y a un travail de croquis ?
Le travail de croquis, il vient avant le devis. Parce qu'il faut dessiner toutes les étapes, c'est-à-dire les dessous aussi comme les dessus. Parce qu'un corset, ça ne se voit pas, mais ça coûte très cher. Et en 1830, on ne portait pas de vêtements sans corset. Donc, les choses qui ne se voient pas comme ça, les dessous, les jupons, les bas, la lingerie, les bretelles, tout ça, c'est de l'argent. Et ça se voit pas forcément. Sauf que c'est indispensable pour la silhouette et c'est indispensable pour l'acteur aussi. Je vais pas faire une économie de bretelles avec un pantalon qui tombe sur les genoux.
On parlait d'époque. Est-ce qu'il y a des époques que vous préférez ?
Oui. Ah oui, je suis extrêmement 19e siècle, particulièrement l'époque romantique, 1830, 1850, parce que j'ai beaucoup fait. J'aime énormément la Régence, tout ce qui est début 18e siècle, les Marivaux, les Musset. Et j'aime aussi beaucoup, beaucoup le début 20e. Tous les les Guitry, les Rousseau, les je oui, c'est des époques, je pense que je les ai vécues
dans une autre vie.
Oui, j'ai eu beaucoup de vie et mais je dis ça parce que depuis que je suis petite, j'ai toujours été mon propre mannequin. C'est-à-dire que en général, j'essayais les choses avant pour voir comment on vivait dedans. Quand on me parle de corset, ça me sert, c'est pas vrai. Moi, j'ai porté des corsets, j'ai essayé les corsets pour voir comment ça réagissait sur la peau, à la chaleur, sous les projecteurs et à l'usage. Et j'ai essayé les jupons et comment on marche avec une robe longue et comment on marche avec un chapeau et comment on joue avec des gants en peau, en coton. J'essaye tout moi-même. J'essaye les couleurs sur moi pour voir ce que ça diffuse, si ça enferme, si ça ouvre. Il y a des tissus qui tiennent chaud, il y a des tissus qui craquent, il y a des tissus qui donnent froid, il y a des tissus qui font du bruit. Il faut essayer sur soi.
Vous êtes le cobaye.
Je suis mon propre cobaye.